tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour la première émission d'une série de documentaires consacrée à la parole au travail. Nous tenons d'abord à remercier la Fondation Syndex qui soutient ce projet. Syndex est un cabinet d'expertise qui étudie, à la demande des comités d'entreprise, les comptes des entreprises. Ou qui étudie, à la demande des comités d'hygiène et de sécurité au travail, les CHSCT, les risques pour la santé des salariés. Peut-être que nous verrons dans une émission future en quoi consiste ce métier. Syndex a créé une fondation entreprise pour donner à entendre ou à voir la parole quotidienne de ceux qui travaillent. C'est donc ce que nous vous proposerons avec cette série d'émissions. Pour ma part, je suis Christophe. Ni journaliste, ni documentariste, je suis sociologue du travail. Je m'intéresse à la santé au travail, à ce que font les gens au boulot et comment ce boulot se transforme, comment il devient possible ou impossible. Comment son organisation évolue. Mais ce que je voudrais partager ici, sur Radio Grenouille, avec vous, ce n'est pas une analyse savante sur le travail d'aujourd'hui ou de demain. Ce que je voudrais donner à entendre, ce sont des témoignages. Les témoignages de ceux qui donnent de leur énergie, de leur vie, pour un métier dont ils essaient, souvent malgré tout, d'être fiers. Le témoignage de l'intelligence ordinaire des gens au travail. Pour cela, nous irons ensemble écouter des travailleurs de tous horizons. Des conducteurs de bus, des paysans, des ouvriers du bâtiment, des taximens, des chefs d'entreprise. Bref, ceux qui tous les jours travaillent et ceux qui sont trop rarement entendus dans l'espace public, sur les médias et même dans nos cercles privés ou familiaux. Nous entendrons ce que les gens inventent tous les jours pour arriver à faire ce qui est à faire. Nous entendrons des gens qui arrivent à faire leur boulot, d'autres qui n'y arrivent pas ou plus. Et d'autres encore qui aimeraient beaucoup le faire autrement. C'est tout cela que nous chercherons à vous présenter dans cette série avec Radio Grenouille. Et aujourd'hui, nous allons commencer par rendre visite à un vétérinaire. Un vétérinaire exerçant dans un cabinet indépendant et qui va nous raconter comment s'occuper de Mimine, un chat en état de choc. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Pour illustrer ça, on va parler de l'histoire de Mimine, qui appartient donc, qui est une chatte dont s'occupent deux dames, qui sont deux sœurs, qu'on qualifie, on va dire, de dames à chat, parce qu'elles s'occupent, elles ont recueilli pas mal de chats, elles s'occupent des chats des rues. Et cette chatte, qui était en pleine forme, du jour au lendemain, se retrouve prostrée. À ne pas bouger de sa caisse, à ne plus manger, plus faire de sel, plus boire. Et donc quand elle me l'amène, elle est en état de choc. Il y a des risques pour sa vie, donc la première chose, on traite l'urgence, on le perfuse, on le déchoque avant de poser un diagnostic. Alors l'examen clinique, c'est l'auscultation cardiaque, observer les muqueuses, voir si elles sont pâles, si elles sont cyanosées, la palpation abdominale, la vigilance, est-ce qu'on a des problèmes neurologiques, pas neurologiques, la température, est-ce qu'on a une hyperthermie, une hypothermie. L'examen clinique va nous permettre de proposer des hypothèses diagnostiques. On va avoir plusieurs idées qu'on va classer de la plus probable à la moins probable. Et puis on va faire des examens complémentaires qui vont nous permettre de confirmer ou d'infirmer notre hypothèse diagnostique. Dans le cas de Mimine, l'hypothèse le plus probable était une occlusion intestinale. Dans l'art vétérinaire, on est obligé d'un peu tout être. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui effectivement... et interprète les radiographies. C'est moi qui ai fait l'échographie. J'aime bien l'imagerie en général et j'en fais depuis pas mal de temps. ce qui me permet d'avoir une certaine sensibilité. Et dans le cas de Mimine, on a trouvé ce qu'on appelle une intussusception, c'est un nom un petit peu barbare, mais en fait c'est un retournement de l'intestin sur lui-même, une invagination de l'intestin, comme si tu imagines que tu retournes ta chaussette dans elle-même. Ça c'est grave, c'est mortel, c'est-à-dire que si on n'intervient pas, on est l'animal est condamné. Une fois que donc j'ai eu le diagnostic et donc là qui nécessitait l'intervention du propriétaire pour prendre une décision. C'est une chatte qui a une dizaine d'années, qui est pas jeune. On a un autre facteur qui rentre en jeu dans notre métier, qui est l'aspect financier, c'est-à-dire que je leur avais expliqué un petit peu les coûts que pouvaient engager les examens qu'on allait mettre en place. Maintenant qu'on avait le diagnostic, évidemment, le traitement avait un certain coût. Donc, la conclusion, là, c'est si on veut faire quelque chose, il faut opérer, il faut libérer cette occlusion avec, si on enlève un bout d'intestin, une possibilité de complication septique. Et puis, qu'est-ce qui a créé cette intussusception? Pourquoi l'intestin a fait ça? On se doute que derrière, il y a une cause. Alors, il peut y avoir pas mal de causes, des causes inflammatoires, des causes parasitaires, des causes tumorales. On rencontre des phénomènes cancéreux. Ces dames voulaient intervenir. Elles m'ont dit, non, mais... on y va, faites ce qu'il y a à faire. Donc, on a programmé la chirurgie le lendemain. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Sur une opération, la première, on va devoir anesthésier l'animal. Ensuite, il y a la préparation du champ opératoire. Le champ opératoire, c'est l'endroit où le chirurgien va faire son intervention, va ouvrir la peau. Donc ici, l'abdomen. Tout ça, ça se fait dans une salle de préparation. Okay. Pourquoi? Parce que le bloc opératoire, on y va le moins possible et on y va quand l'animal est le moins sceptique, donc le moins chargé en bactéries possible, pour avoir une ambiance autour de la chirurgie la plus aseptique, donc sans bactéries possible. Donc, une fois qu'on a bien préparé le champ opératoire, à ce moment-là, on passe en salle de chirurgie. Donc, on amène l'animal en salle de chirurgie et c'est là où, effectivement, on va opérer. Alors, Mimine, pour Mimine, elle est sur le dos, effectivement. Donc, le ventre en haut pour qu'on puisse intervenir. Donc, elle est sur le dos, le ventre en l'air. On ouvre au milieu. C'est ce qu'on appelle la ligne blanche, qui est l'endroit où les muscles abdominaux se soudent. Tu incises la peau au milieu. Alors, le meilleur repère, c'est l'ombilic, le nombril. Hein. Tous les mammifères ont un nombril. Hein. Donc, on repère le nombril et on sait que ça, c'est le milieu du chat. Donc, on ouvre la peau. On écarte un petit peu la peau pour justement voir la ligne blanche. Hein. Donc, on voit les muscles abdominaux et on voit cette ligne blanche qui est la soudure. D'accord. Alors, dans le cas de Mimine, c'était un animal maigre, donc tu es super content, tu écartes la peau, tu es tout de suite sur les muscles, tu as ta ligne blanche et tu es super content. Des fois, on a des pépères et des mémères qui arrivent, il faut écarter quelques centimètres de graisse. Et là, l'identification de la ligne blanche peut être un peu plus difficile. Mais ce n'était pas le cas de Mimine. Elle a été gentille avec nous, c'était une chatte qui ne mangeait pas trop et qui faisait de l'exercice. Donc après, tu ouvres au niveau de cette ligne blanche, tu ouvres juste en dessous, tu as le péritoine, qui est cette séreuse qui recouvre tout l'abdomen, dans lequel sont contenus tous les organes abdominaux, l'estomac, le foie, la rate, tout ça, et les intestins. Donc, on extériorise l'intestin, hein, donc tu as le foie qui est en haut, vers le thorax, qui est un organe qui ne bouge pas beaucoup, qui est collé là, l'estomac, qui ne bouge pas énormément, mais qui peut être un petit peu manipulé avec la rate qui recouvre l'estomac. Et à la sortie de l'estomac, tu as tout le tube intestinal. L'intestin, tu peux le sortir, et vraiment, tu peux le. Sans risque, tu le mets hors de l'ouverture que tu as fait au niveau de l'abdomen. Tu vois tout de suite un truc qui fait 4 fois le volume d'un intestin normal. Tu sais que la pathologie est là, tu le sors, et là tu commences à le déplier, comme tu retournes une chaussette. Là-dessus, tu sais pas ce que tu trouves dessous. Dans le cas de Mimine, c'était quelque chose qui datait de la veille, et où il n'y avait pas eu de nécrose, pas eu de souci. Donc l'intestin s'est très bien déplié. Par contre, dans l'exploration de la cause, de savoir pourquoi ça s'était produit, là tu commences à palper tout ton intestin, voir s'il y a des anomalies au niveau de la muqueuse, tout ça, et j'ai senti une masse à l'intérieur de l'intestin. Tu sens une masse, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Des fois ça peut être juste du bol alimentaire ou quelque chose qui est en train de progresser, mais en essayant de le faire glisser dans l'intestin sans avoir ouvert, ça bougeait pas. J'ai essayé de le faire remonter, ça remontait pas. Donc je me suis dit c'est quelque chose qui est adhérent à ça. Corps étranger qu'on n'aurait pas vu à la radio, à l'écho, masse. Donc là, on n'avait pas le choix, on a ouvert l'intestin. J'ai ouvert l'intestin. Donc j'ai ouvert l'intestin, une ouverture qui faisait 1 cm de long, 1 cm et demi, pour pouvoir extérioriser cette masse. Il se trouvait que cette masse, c'était un polype. Je retire cette masse et je la mets de côté pour la faire analyser dans un deuxième temps. Donc après, tu sutures ton intestin. Là, tu le sors et une fois que tu as refermé de façon étanche ton intestin, tu rinces. Même si tu penses que tu as été très très propre, tu rinces, tu rinces, tu rinces. Et là, ça te permet de réattaquer une phase beaucoup moins sceptique, beaucoup moins sale, qui consiste à remettre tout en place. Tu remets tout dedans, et donc c'est pas au millimètre près, hein, surtout l'intestin, ça bouge tout le temps, donc tu le remets, ça va reprendre sa place, et donc après tu refermes, plan par plan, le plan musculaire en premier, en suturant au niveau de la ligne blanche. Donc là tu fais un plan musculaire, donc tu vas refermer ta cavité abdominale en refermant ton muscle, et après il faut refermer la peau en deux temps. D'abord tu fais un plan sous-cutané, qui est le plan le plus résistant au niveau de la peau. Donc ça va te permettre de rapprocher les deux bords de ta peau côte à côte, grâce à ce plan sous-cutané, toujours avec des fils qui sont résorbables. Et après, tu vas faire le plan cutané, où le plan cutané, ça va juste maintenir les deux bords côte à côte pour que ta cicatrisation soit idéale. Donc après, tu fais la suture cutanée. Ensuite, on fait un petit pansement dessus. Donc après, l'intervention est terminée.
Position de réveil.
Une belle intervention, c'est une intervention où il peut y avoir des complications, enfin, des choses qui ne se passent pas comme c'était prévu et que tu récupères bien. On est bien content quand il n'y a pas de souci, quand ça s'est passé comme on l'avait imaginé. Parce que pour Mimine, ça s'est passé comme sur des roulettes. Il n'y a pas eu de complications. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir que quand on fait une intervention comme ça qui est facile, c'est juste qu'on n'a pas utilisé 95% des choses qu'on sait faire si ça se passe mal. Bien évidemment, une intervention comme ça... Sauf si tu tournes de l'œil, mais presque, on peut la faire ensemble. Tu peux, toi, la faire 90% de l'intervention. Si je te dis, tu ouvres, je sais pas, tu as déjà peut-être fait de la charcuterie ou des choses comme ça, on t'explique, tu coupes en petits dés tes trucs de 1 cm, pour faire du saucisson par exemple, mais tous ces réflexes-là, toutes ces connaissances-là, dans le cas de Mimine, n'ont pas été nécessaires. Parce que tout s'est bien passé. pour moi, le plus difficile, c'est l'art du diagnostic. Et parce que techniquement, tu peux, ça a d'ailleurs été ton réflexe, tu m'as dit, ça a l'air facile. Techniquement, c'est pas très difficile. Par contre, l'art du diagnostic de la pathologie au départ, mais même dans le, dans l'intervention. C'est-à-dire que dans l'intervention, tu peux être amené à te dire, on enlève ou on n'enlève pas l'intestin ? Est-ce que, parce que tu peux dire, on l'enlève pas, on prend moins de risques septiques, mais si l'intestin se nécrose et que le chat fait une péritonite derrière, même pendant l'intervention, t'as des micro-diagnostics à poser à chaque fois. Tiens, il y a une masse. Est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas ? Bon, là, le diagnostic n'est pas trop difficile, mais oui, la réponse que je me suis dit, c'est oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment le faire ? Quelle décision je prends pour donner le maximum de chance à l'animal ? Avec un acte technique. Et pour moi, le diagnostic est beaucoup plus difficile que l'acte technique. Ce qui me fait réellement plaisir, c'est opérer, c'est diagnostiquer, c'est faire des examens complémentaires, c'est de soigner. Mais tu peux pas être ton propre patron et faire que ça. Donc moi maintenant, en tant que chef d'entreprise, en dehors de ça, eh bien, il faut être un peu gestionnaire. C'est-à-dire que, si tu veux faire des économies, justement, calculer ce que te coûte un stock, moi, au début, en vétérinaire salarié, je ne savais pas ce que c'était. Et franchement, je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'est avoir du matos pour pouvoir faire des belles opérations, que les chiens et les chats soient guéris, soient en pleine forme, que les clients aient une grosse banane et qu'ils se disent « Tiens, le docteur, il est super fort, il est super beau. » Mais quand tu es chef d'entreprise, il faut que tu saches qu'est-ce que ça te coûte. Gros ménage, donc ça c'est quelque chose d'important. Intendant, on peut dire, c'est-à-dire que pour travailler, il faut du matériel. On a utilisé des fils stériles, on a utilisé des lames stériles, on utilise des médicaments. Il faut les avoir quand tu veux travailler. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire commander ce qu'il nous faut, mais savoir sortir. C'est un des points où il y a le plus de bugs. J'ai corrigé ça en augmentant le stock, mais ça a un coût. Moi-même, quand je me suis mis à calculer le coût de tous mes actes, je me suis aperçu qu'il y avait quelques actes sur lesquels je perdais des sous. Donc j'étais super content de faire des trucs, ça me coûtait de l'argent. Les entreprises vétérinaires, avec l'évolution qu'on a, font que ça te prend du temps. Et surtout, si tu le fais pas bien, ça te fait perdre de la rentabilité. Ça va pas te mettre en faillite, mais on sait que dans une entreprise, la rentabilité, c'est ce qui est intéressant. Faire du gros chiffre si tu n'as pas de rentabilité, parce que la rentabilité, c'est ce qui va te permettre d'investir dans du personnel, de former ton personnel, d'investir dans les nouveaux matériaux. À partir du moment où on travaille avec du personnel, il y a de la ressource humaine. Ça peut être très simple, comme ça peut venir complexe. Si on parle de ma situation à moi, l'année 2014 a été très difficile. J'avais deux salariés, auxiliaires vétérinaires, une... Ça arrive, il n'y a pas que dans notre métier, on sait tous, a le plaisir d'être enceinte. Donc ça, c'est super. Alors, dans le fond, c'est super, mais quand tu es chef d'entreprise, quand tu as cette nouvelle, tu te dis, ah, ok, bon, il faut bien repeupler la France, mais il va falloir quand même un nouveau truc à gérer. Donc, elle m'annonce ça, et ça ne s'est pas bien passé au début. Donc en fait, elle a été arrêtée tout de suite. Donc elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, 2 semaines après, elle était arrêtée. C'est très court. Et c'était une fille qui travaillait, et qui avait donc un poids et une importance dans la structure. Donc déjà, on se retrouve à devoir assumer son travail, un travail conséquent. Et en même temps, il faut faire du recrutement. Il faut la remplacer. Donc tu reçois 7 ou 8 candidates, t'en sélectionnes une. Je l'engage et tout ça. Bon, cette jeune fille qui commence à travailler, une semaine après avoir signé son contrat, m'annonce qu'elle est enceinte. Malheureusement, on a plein d'animaux qui sont dans un statut social avec le maître qui est complètement déstabilisant pour eux. Et tu peux pas. Alors, enfin, oui, peut-être plus jeune, je pensais qu'on allait tout changer. Non. Ouais, j'ai cru que je pourrais y arriver, mais après, tu prends un peu d'humilité et puis tu fais. Et donc, effectivement, le il faut te concentrer sur les choses efficaces. Des clients à moi qui m'envoient des amis à eux, en disant, vas-y, ils sont bien. Donc je dis, ah ben, merci, c'est gentil et tout. Ah bon, mais pourquoi, ils vous ont dit quoi? Ah, ils m'ont dit que vous aimiez les animaux. Ils n'ont pas dit que vous les soignez bien. Ils n'ont pas dit que vous étiez le moins cher du quartier. Ils n'ont pas dit que vous étiez le dieu de la chirurgie. Parce que eux, c'est la sensation. Donc le choix, ça a été, ah ouais, il aime les animaux. Et moi, je connais des gens qui sont spécialisés, donc là, qui sont vraiment dans les plus grosses structures, où les relations humaines, ils en ont marre. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc passer son temps à faire des papouilles aux chiens après qu'il soit réveillé dans sa cage, ça ne les intéresse pas du tout. Par contre, le chien, il avait une triple fracture du bassin, il est réparé, il marche, il saute. Dans 3 mois, il retourne à la chasse ou nager avec ses propriétaires ou faire des trucs. Et le mec, il est super content parce qu'il dit... Et c'est lui qui l'a fait le mieux dans la région. Si je gère pas bien, j'aurais pas le plaisir de pouvoir m'acheter un nouvel, un fibroscope ou changer l'échographe pour avoir encore de meilleurs diagnostics, donc me faire plaisir vraiment sur l'acte médical et l'acte diagnostique. Mais si je gère pas bien, je pourrais jamais me l'offrir. Enfin, la structure pourra pas investir là-dedans. Et c'est là où tu t'aperçois que de bien gérer ton personnel, de bien gérer toute ton entreprise, fait que tu as plus de possibilités de te faire plaisir. Moi, je suis le chef d'entreprise, c'est moi qui prends les décisions, je fais ce que je veux. Non, je fais pas ce que je veux, parce que il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes légales, sociales, des choses comme ça. Mais les axes de développement de l'entreprise, c'est moi qui les choisis. C'est très intéressant, c'est très valorisant. Maintenant, c'est très très prenant. Tu fais 60, 65 heures par semaine. Donc ça, c'est beaucoup. Ce qui me fait réellement plaisir, c'est opérer, c'est diagnostiquer, c'est faire des examens complémentaires, c'est de soigner. Mais tu peux pas être ton propre patron et faire que ça. Thank you.
chroniques, émissions spéciales, sélections musicales. Radiogrenouille.com.